Découvre personnellement comment la parole de Dieu peut effectuer un changement dans ta vie à travers le ministère de l'évêque Dagi Wallmills. Dagi Wallmills est le fondateur de Lighthouse Chapel International, une dénomination de plus de 2000 branches à travers le monde. Il est un évangéliste qui guérit et un auteur de plusieurs livres à grand succès. Il est aussi le pasteur de l'église Premier Amour, un ministère de campus avec plus de 200 branches. L'église de Premier Amour est une église vibrante avec des gens jeunes et énergétiques, remplis du premier amour pour le Seigneur. Maintenant, écoutons Dagi Wallmills.
Père, merci pour ce jour. Tu nous as bénis. Tu as été avec nous. Nous sommes venus devant toi. Nous demandons à ce que tu touches chaque vie dans une manière particulière. Merci pour ta grande puissance et ta grâce sur notre vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Asseyez-vous. Alléluia. Aujourd'hui, c'est la fête des pères et j'aimerais pas vraiment prêcher sur ça, mais j'aimerais qu'on regarde encore ce message. Seigneur, je sais que tu as besoin de quelqu'un, mais je veux qu'on dise, Seigneur, je sais que tu as besoin d'un père pour quelqu'un. Job chapitre 5, verset 1. Crie donc, y a-t-il quelqu'un qui te réponde et vers lequel dessein te tourneras-tu? Car le chagrin fait mourir le sot et la jalousie tue le simple. J'ai vu le sot s'enraciner et soudain, j'ai maudit sa demeure. Ses fils sont loin de la sûreté. Ils sont écrasés dans la porte. Et il n'y a personne pour délivrer. Sa moisson, la famille, la mange. Et jusque parmi les épines, il la prend et le piège guette son bien. Au verset 5 et 4, la Bible dit que ses fils sont loin de la sûreté. Et sont écrasés dans la porte. Et il n'y a personne pour délivrer. Amen. Donc, les enfants sont écrasés parce que ces enfants ont besoin d'un père. Beaucoup d'entre vous ici êtes des pères en préparation. Amen. Mais votre amen n'était pas si fort. Vous êtes des pères. Pas parce que vous êtes si spécial, mais c'est parce que vous avez une qualité cachée en vous qui vont sortir bientôt et les gens vont voir. Donc, à travers vous, beaucoup de personnes seront aidées dans la manière dont un père est supposé aider ses enfants. Donc, vous aviez pensé venir me célébrer comme un père, mais moi, je vous célèbre comme des pères potentiels pour beaucoup de personnes. Amen. Des pères potentieux. Maintenant, Dieu va vous utiliser beaucoup jusqu'à ce que beaucoup de personnes, vous voyez, moi, quand j'étais devenu pasteur, Initialement, j'étais appelé le frère Dag, et puis j'étais devenu pasteur, et maintenant, ils ont changé de m'appeler frère à un pasteur. Et après, le pasteur maintenant, et puis, je suis devenu un évêque. Mais un jour, il y a une personne qui me disait, j'aimerais t'appeler, et il est venu me voir en privé, il m'a dit, j'aimerais t'appeler père, papa, parce que pour moi, c'est ça qui décrit bien ma relation avec vous. Et c'était le prophète Kakra, ça fait des années déjà. Donc, c'était environ cette époque-là que beaucoup de personnes aussi ont commencé à m'appeler papa. Mais moi, je n'aime pas cette terminologie-là, quoi, parce qu'au Ghana, c'est comme si toute personne qui est âgée est appelée papa, maman. Mais être papa et maman a une signification. Mais à ce temps-là, beaucoup de personnes qui relataient avec moi, sur leur propre gré, ils ne m'appelaient plus pasteur, mais ils m'appelaient papa ou bien un des mots qu'on utilise pour appeler les papas, papa, Didi, Dodo, Daddy, Dadou, Didi, Dada, je ne sais pas. Et en esprit, c'était à ce temps-là que j'étais devenu un père. Ce n'était pas depuis le commencement, mais en esprit, j'étais devenu un père. Et à ce point, on était à collègues, non? Mais ce que j'essaie de dire, c'est que vous serez des pères merveilleux et des mères merveilleuses aux autres. C'est quelque chose qui va se passer parce que c'est quelque chose qui manque aujourd'hui dans notre monde. Même dans nos foyers, dans nos églises, nous voyons qu'il y a un manque de cette chose. C'est pas vrai? Quand on grandit, vous voyez, tu commences à voir ce que tu manques. Parce qu'un enfant, un enfant doit grandir, en même temps, l'enfant doit grandir aussi dans ses yeux. Dites après moi que mes yeux aussi doivent grandir. Et quand les yeux se développent, tu commences à voir des choses que tu ne voyais pas auparavant. Quand tu es un enfant, tout est joli, tout est OK, tout le monde est même. Mais quand tu grandis, tes yeux doivent aussi se développer. Et quand tu vois, tu vois. Et quand tu entends bien. Mais ce qui se passe, c'est que nous grandissons, mais nos yeux ne grandissent pas bien. C'est pourquoi la Bible dit que quand il y a des ténèbres dans tes yeux, ça veut dire que ton corps entier est plein de ténèbres. Donc, tu es supposé voir. L'une des choses que vous devez voir, quand les yeux grandissent et se développent, si les yeux ne se développent pas, tu ne peux pas voir. Mais quand tes yeux commencent à se développer, tu commences à voir les choses qui manquent dans votre parent. Oui, votre papa et votre maman. Quand tu commences à voir les manques dans la vie de ton père, ta mère, tes pères, c'est ce point que les enfants commencent à vaciller, si soit à droite ou bien à gauche. Êtes-vous avec moi? Je vous parle sur le thème, Seigneur, je sais que tu as besoin de quelqu'un, en particulièrement un père. Et je vous dis que vous serez des pères, des mères bientôt, pas seulement biologiquement, mais aussi spirituellement. Dieu le fera. Et ce qui se passe, c'est que quand tu grandis, bientôt, tu vas constater qu'il y a quelque chose qui manque dans tout ce que ton père avait fait pour toi. Peut-être tu avais un père qui ne te parlait pas trop, donc il n'a pas dit de grandes choses concernant la vie. Il y a les différents types de pères. Certains pères ne vont rien dire, rien. Tu peux aussi avoir une maman qui ne dit rien sur rien et de rien. Tu peux aussi avoir une mère qui t'a mis au monde et puis après, elle t'a laissé ici, elle est allée à Londres pour vivre là-bas. Et elle vit à Londres depuis. Donc, c'est sa manière d'être maman pour toi. C'est en te mettant au monde. C'est fini. Parce que pour elle, c'était quelque chose pour elle, pour accoucher. C'est fini. Elle n'était pas une maman qui prenait soin de toi, mais elle était sous pression par la société d'enfanter. C'est pourquoi elle a enfanté. Et ça, c'est une des conditions de beaucoup de femmes. Voici la raison pour laquelle elle pouvait te laisser et puis continuer avec sa vie. Pour elle, ce n'est pas quelque chose, grande chose, d'avoir un enfant, parler à l'enfant, et puis avoir l'enfant jusqu'à l'enfant va grandir, causer avec toi, et aussi de répondre à tes questions sur la vie, à cause de ce qu'elle est. Et vous allez voir les différences. Vous voyez, dès le commencement, quand tu grandissais, tu vas voir que ton papa était milliardaire, mais tu vas apprendre après que ce n'est pas même lui qui prenait soin de toi, même pas son 5 francs n'est entré dans ta vie. Et tu vas voir que ta maman était celle qui était ton père aussi en même temps, père-mère, ou bien mère-père. Bon, mais au commencement, tout semble correct et beau. Et c'est comme si ta maman est la meilleure maman. Mais quand tu viens à l'église un jour, tu entends cette chanson que, douce maman, mais elle est une mauvaise amante. Et puis tes yeux commencent à grandir. Et tu commences à rendre compte que maman est plus que ça. Elle est un amoureux, un amant, une amoureuse zéro. Ton papa souffrait à la maison. Ton papa avait des grincements des dents. Oui. Bon, au commencement, tu peux penser que papa est très gentil, elle ne te frappe pas. Il ne te frappe pas. Mais après, dans la vie, tu vas constater que ton papa... Tu vas constater que plutôt ton papa n'était pas concerné de ta vie et que les gens qu'on frappait quand ils grandissaient deviennent mieux et meilleurs que ceux qu'on ne frappait pas. Et que ton papa était flegmatique total et que c'est ta maman qui faisait tous les frappes et c'est elle qui parlait et tout. Oui. Donc, au commencement, tu vas aimer toutes les nourritures à la maison, mais quand tu grandis, tu vas te rendre compte que il y a quelque chose qui ne va pas avec la nourriture de la maison. Surtout quand tu sors pour aller manger dehors, tu vas dire « Ah, mais sa nourriture, c'est bien dehors. Hein? » Quelqu'un est venu chez moi une fois, il mangeait du riz avec de la sauce et puis il y avait beaucoup de monde là-bas. Et puis, soudainement, il a demandé à ce qu'on puisse lui donner chito et le piment noir chaud là. Et je lui ai dit, mais pourquoi? Il dit, non, mais à chaque fois qu'il mange, il faut le chito parce que, vous voyez, parce que la sauce que son épouse préparait là n'était pas bien. C'est pourquoi à chaque repas, il avait besoin de, comment on appelle, chito pour pouvoir édifier la sauce. Ah oui, c'est à ce point que les enfants deviennent rebelles ou ces enfants deviennent soit des bons enfants ou des mauvais enfants. C'est quand les yeux de ces enfants commencent à grandir, c'est à ce point-là qu'on choisit, on choisit pour devenir un bon enfant ou bien un enfant rebelle. Parce qu'à ce point, tu deviens rebelle contre ton père ou bien tes parents. Parce que avant, tu croyais que ton papa était un homme de Dieu parce qu'il venait à l'église. Mais après, tu vas constater que ton papa n'était pas spirituel du tout. Oui, donc c'est une certaine manière, mais tu ne sauras pas. Mais en grandissant, tu vas penser que ta maman est spirituelle parce qu'elle partait à l'église. Mais après un moment, tu vas voir que ta maman n'est pas spirituelle. C'est à ce point-là qu'on devient un bon enfant ou bien un mauvais garçon. Et qui veut savoir la raison pour laquelle, ici, c'est un carrefour. Ici, je vous dis que vous serez des pères. Mais je suis en train de vous montrer qu'il y a un carrefour dans votre vie où tu peux devenir un enfant bien ou un enfant mauvais. Quand tu commences à voir les manques dans les pères, Matthieu 6, 23, la Bible dit, si tes yeux vous voyez. Donc, tu peux avoir un bon œil ou bien tu peux avoir un mauvais œil. Mais si ton œil est méchant, ton corps tout entier sera ténébreux. C'est donc la lumière qui est en toi est ténèbre. Combien seront grandes des ténèbres? Quand tu commences à voir les choses concernant ton père, tu te lèves et tu dis, oh, laisse mon père tranquille là-bas. Moi, je n'aime pas mon père. Parce que lui, il ne prend pas soin de moi. Et c'est à ce point-là que tu deviens un enfant maudit. Ton père pouvait avoir, ou bien ton père peut avoir des manques, mais peut-être toi, tu vas avoir 40 manques. La plupart d'entre vous, vous êtes de bons enfants, mais vous serez des mauvais parents. Dites après moi que Dieu nous épargne cela. Quand tu entends quelque chose qui n'est pas bon, il faut dire que Dieu m'épargne. Et vous allez voir que c'est à ce point-là que vous devenez rebelle ou bien vous apprenez de nouvelles choses. C'est tout. C'est soit vous deveniez des rebelles ou bien vous apprenez de nouvelles choses que vous ne connaissiez pas auparavant. Vous commencez à apprendre les choses que vous n'aviez pas à apprendre à la maison et vous commencez à ajouter ça aux choses que vous connaissez. Et vous honorez aussi tout ce qui est là. C'est pourquoi la plupart des enfants qui sont nés, les premiers nés, deviennent des enfants rebelles parce qu'ils voient des choses que les autres n'ont pas vues. Ils ont les yeux que les autres n'ont pas. Quand tu es le dernier enfant, tes parents ne se soucient pas trop parce qu'ils sont relax, parce qu'ils ont vu beaucoup de choses dans les autres. Pour eux, ils croient que ça va aller, il n'y a pas de problème. Mais les premiers-nés, c'est eux qui luttent beaucoup parce qu'ils voient beaucoup de choses. Combien de personnes ici sont des premiers-nés? Seigneur, protège leurs yeux. J'ai vu les gens faire des cultes à l'église pour les premiers-nés. Au Nigeria, j'ai vu ça. C'était une grande affiche, un culte spécial pour les premiers-nés, pour briser les malédictions. 7 jours pour les premiers-nés. Oui. Est-ce que vous êtes toujours là? J'espère que vous m'écoutez. Genèse 45. Je vous montre que même vous allez devenir des bons pères, des pères merveilleux à quelqu'un d'autre, à beaucoup de personnes au nom de Jésus-Christ. Est-ce que j'ai expliqué ce carrefour-là? Quand vous voyez le déficit de votre père ou bien votre parent, c'est à ce point-là que vous commencez à apprendre comment être une maman améliorée. Vous comprenez quand je dis moda? Oui, moda, oui, c'est l'anglais. Ça dépend de ta langue maternelle. Quand j'étais allé au Singapour, j'ai constaté quelque chose. J'ai constaté qu'ils ont ce qu'on appelle, comment on appelle, sanglais. Ça, c'est l'anglais singapourien. Quand j'étais allé, j'ai constaté qu'ils ont leur manière de parler l'anglais. Quand tu demandes des questions, au lieu de dire oui, il dit can. Donc quand je dis moda, ça aussi c'est ce qu'on appelle, comment on appelle, Chinglish. Dis à ton voisin, je n'ai pas été au Singapour, mais je deviens international. Et quel est le thème? Je parle de quoi? Je prêche sur quoi? Les carrefours. Quand tu vois les déficits, les manques de tes parents, c'est à ce point-là que tu dois décider d'être une version améliorée, pas méprisée. Quand tu vois les déficits, les manques de ton père, faut pas dire que mon papa n'est pas spirituel, mon papa est là, qu'on me passe ça. Quand c'est son tour, tu vas voir ce qui va se passer. Mais quand tes yeux s'ouvrent, tu vas commencer à voir que tu vas devenir la version améliorée de ton père. Je disais à quelqu'un, j'étais en train de conseiller la personne et la personne me regardait comme si j'étais un étranger qui ne vient pas du Ghana. Et je lui ai dit, mon ami, tout ce que je te dis de faire, je n'ai pas vu ça dans la vue de mon père biologique, mais j'ai appris ça de Fred Price. J'ai appris cela en l'écoutant prêcher. C'est en écoutant ces messages, il faisait des petits commentaires que j'ai appris. Et je lui ai dit, je te conseille, ta manière de me regarder, j'ai l'impression que tu ne vas pas m'obéir. Mais je t'assure que c'est ça. Mais j'ai appris cela. Moi, j'ai appris cela de la prédication de l'Église. Donc, quand vous venez à l'Église et les yeux sont ouverts, tu as une opportunité de devenir la version améliorée de quiconque ou bien de quelle maison de laquelle tu es issu. Si tu es venu d'un foyer de la brousse, tu vas devenir comme une étoile, une vedette. Quand tu rentres à la maison, les gens vont dire, mais hey, maintenant, il semble qu'on ne sait même pas d'où tu viens parce que tu es différent maintenant. Parce que Dieu, il est toujours en train de travailler sur toi. Un jour, je suis allé quelque part avec certaines personnes et j'ai offert à la personne du thé à boire. Et j'ai dit, il faut boire du thé. Elle a dit, hey, chez moi, on mange foutou seulement les matins. Écoutez, tu ne peux pas vivre ta vie comme ça. Tu ne dois pas apprendre seulement comment manger foutou dans le matin. Parce que si tu dois aller voir la reine de l'Angleterre, on ne veut pas te donner foutou à manger dans la matinée. Tu ne peux pas me dire que tu ne manges pas de foutou. Parce que du thé, c'est une boisson sociale. Ce n'est pas là pour satisfaire ta faim ou tes besoins. Parce que tu manges foutou chaque matin. Il y a quelque chose qu'on doit ajouter à ce que tu es. Et tu vas apprendre ça dans l'église. Tu vas apprendre ça des autres personnes. Ah oui? Parce que Dieu va te donner des gens qui seront comme tes pères jusqu'à ce que tu changes pour devenir quelqu'un de différent. Quand j'étais assis avec mes parents de Malaisie, le pasteur Prince Guneratna, c'est son épouse qui mettait de la nourriture sur mon plat, elle me disait, il faut manger. Je suis un évêque et fondateur de quoi? Tais-toi et mange. Et elle dit, mange ceci et je mange. Moi, je savais seulement comment manger avec les fourchettes et le couteau. Voici les deux personnes que j'avais seulement. Et puis maintenant, et moi, je savais manger avec mes doigts, avec les fourchettes et les. Je ne savais pas comment manger avec les comment on appelle les chopsticks. que les Chinois utilisent pour manger là. Bientôt, vous serez des internationaux aussi au nom de Jésus-Christ. Je vois la vie de quelqu'un devient internationale au nom de Jésus-Christ. Et donc, je peux manger avec des baguettes chinoises. Quand tes yeux s'ouvrent, tu commences à voir des choses. Ce n'est pas le temps de mépriser, mais c'est le temps d'apprendre. Si tu n'apprends pas, tu es devenu maintenant un sot, un insensé. Ça veut dire que tu es devenu comme ton père, pire fois quatre. Oui. Et certains parmi vous, vous êtes l'image double de tes parents. Est-ce que vous comprenez mon français? Il faut vérifier, voir dans le dictionnaire, voir. Quand tu es une image double. Une image double de tes parents. Ça veut dire quoi? C'est une expression anglaise. Une image double de tes parents. Hein? Tu as trouvé ça dans le dictionnaire? Viens ici, Daniel, lis pour moi. Vite. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire... le double exactement de quelqu'un d'autre. Certains parmi vous, vous êtes exactement double de votre maman. Exactement double. Et vous pouvez être comme elle physiquement. Mais votre personnalité sera différente. Peut-être que vous ne ressemblez pas à votre maman, mais votre personnalité... Quand tes yeux s'ouvrent, vous allez voir. Un jour, un frère m'avait dit, est-ce que vous écoutez à ma prédication? Vous écoutez? Ce que j'ai dit là, c'est la prédication. Je suis en train de parler, mais je suis en train de prêcher. Un jour, un frère m'a dit quelque chose, il l'a dit. J'étais là un jour quand j'avais constaté que mon père avait un enfant avec une autre femme. Et j'ai commencé à haïr mon père. Je me suis fâché. Et je me suis marié. Et il dit, après être marié, la méchanceté que mon épouse chrétienne m'a administrée, j'ai commencé à comprendre pourquoi mon papa avait un enfant. Quelque part. Oui. J'ai commencé à apprécier parce que initialement, tes yeux ne voient pas. Tout ce que tu vois, c'est douce maman. Moi, par exemple, je ne peux pas imaginer ma maman fait quelque chose de mauvais à mon papa parce que depuis ma naissance, ce que je connais, c'est que ma maman est douce. C'est difficile à imaginer autrement. À moins que tu vois ça ouvertement. Mais moi, je n'ai rien vu. Et moi, je ne blâme personne. Tu ne peux pas voir ça physiquement, facilement. Il dit, mais j'ai commencé à comprendre. Il dit, maintenant, j'avais un sentiment, je voulais faire la même chose que mon papa avait fait. Donc, tu vois, tu vas... critiquer ton père, mais quand tes yeux commencent à s'ouvrir, tu vas voir que ah, ce n'est pas comme on pensait. Par exemple, au Zimbabwe ou bien en Zimbabwe, si un homme sort de son mariage pour aller faire l'enfant avec quelqu'un d'autre, les gens commencent à blâmer la femme. Ils disent que c'est la femme qui est la cause, c'est elle qui a laissé le mari. Y a-t-il des gens de Zimbabwe ici? Il faut venir confirmer, c'est vrai ou ce n'est pas vrai? Oui, il y a quelqu'un là-bas, c'est vrai? Oui, c'est vrai. Nous, on n'a pas. C'est pas moi qui dis ça, ce sont les Zimbabwéens qui disent ça. Tu vas voir que les gens disent ah, waouh, tu n'as pas pu gérer et garder ton mari. C'est pourquoi il est sorti. Il est sorti. Il est allé trouver maintenant un vieux foutou. Il est en train de manger. Parce que Toi, la femme actuelle, tu lui donnais le kinké, vieux kinké avec de poulet ou bien des poissons bouillir. Genèse 45. Dieu va vous lever comme des grands-pères. Au lieu de devenir un rebelle, tu vas devenir un meilleur père et une meilleure maman au nom de Jésus. Genèse 45. Et Jésus ne put plus se contenir devant tout ce qui se tenait près de lui et il cria. Faites sortir le monde d'auprès de moi. Et personne ne se tint près de Joseph quand il fit connaître à ses frères. Et souvenez-vous que Joseph avait 30 ans quand il était devenu le premier ministre de l'Égypte. Et c'était 2 ans dans la famine maintenant que ses frères étaient venus pour chercher à manger. Vous vous rappelez de l'histoire de Joseph et ses frères. Et c'est ce moment où Joseph va se révéler à ses frères parce que jusqu'à maintenant, il parle la langue égyptienne. Vous savez, quand j'étais allé en Israël cette fois-ci, oui, vous serez là bientôt. J'ai vu quelque chose, vous savez, parmi les Juifs, il y a des Arabes. Et ils parlent l'arabie et ils parlent aussi la langue hébreuse aussi. Donc si tes oreilles ne sont pas vraiment habiles, tu ne vas pas entendre. Mais celui qui conduisait la voiture dans laquelle j'étais, il parlait l'arabe. Et moi, quand j'entends l'arabe, je sais. Même si c'est l'arabe courant, je sais. Donc, quand il a commencé à parler, j'ai dit, ah, et je lui ai demandé. Et j'ai constaté qu'il était un arabe. C'est un juif arabe. Et les deux ne se comprennent pas, à moins que tu comprennes les langues. Donc, Joseph, quand il parlait à ses frères, il parlait à travers un interprète. Quand il parle, Asrahal, Hatral, le proche, et puis quelqu'un aussi interprète en hébreu. Shilaba, shilaba. Et puis il dit, Al-Hal Mikatosh Kataha, Al-Prez Kataba. Et puis Daha, et Shibushibushib. Donc personne ne savait qui il était, parce que ses frères parlaient l'hébreu et lui il parlait l'arabe. Et il y a des années, il croyait qu'il était mort. Donc il parlait en arabe avec un interprète. Comment il pouvait savoir? C'est comme un homme qui s'est marié à une épouse et puis il prétendait être sourd. Il prétendait être sourd parce qu'il disait que son épouse parlait trop et il ne voulait pas s'impliquer dans ses affaires. Donc, il parlait, la femme parlait, l'homme a commencé à prétendre être sourd. Ils sont allés à l'hôpital pour confirmer et il faisait des signes avec sa main. Toutes mes histoires sont vraies. D'accord. Verset 2. Et il laissa éclater sa voix en pleurs. Et les Égyptiens l'entendirent et la maison de Pharaon l'entendit pleurer. Et Joseph et ses frères. Joseph dit à ses frères, je suis Joseph. Mon père vit-il encore? Et ses frères ne pouvaient lui répondre car ils étaient troublés devant lui. Et Joseph dit à ses frères, approchez-vous de moi. Et ils s'approchèrent et il dit, je suis Joseph, frère que vous avez vendu pour l'Égypte. Et maintenant, ne soyez pas attristés et ne voyez pas d'un œil chagrin que vous m'avez vendu, car c'est pour la conservation de la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. C'est un parmi vous. Ce de quoi tu as traversé, c'est Dieu qui t'a fait traverser pour te préparer pour ton bien. Quelques erreurs que vous avez faites, Dieu va utiliser ça pour votre bien au nom de Jésus-Christ. Amen. Car Dieu m'a envoyé pour préserver votre vie. Verset 6. car voici 2 ans que la famine est dans le pays et il y a encore 5 ans pendant lesquels il n'y aura ni labeur ni moisson. Donc ça veut dire que ça faisait déjà 2 ans après la famine et il était 32 ans. La Bible dit, verset 7, et Dieu m'a envoyé devant vous pour vous conserver du reste sur la terre et pour vous conserver la vie par une grande délivrance. Verset 8. Maintenant. Et maintenant, ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il faut souligner maintenant la phrase qui suit. Il dit, et il m'a établi père du Pharaon. Il m'a établi père du Pharaon et gouverneur sur tout le pays d'Égypte. Vous savez, c'est Dieu qui fait les gens des pères. C'est Dieu qui établit les gens pères. Et nous voulons dire, Père, nous savons que tu as besoin de quelqu'un et une des personnes que Dieu, les gens ont besoin, c'est un père, quelqu'un avec lequel tu ne veux pas que faire de débat. Quelqu'un, quand il parle, tu dis, ça, c'est droit, je le ferai. Quelqu'un à qui tu honores, à savoir, vous savez, la plupart de nos problèmes, c'est à cause des débats que nous faisons. Le riche est allé au ciel à cause des débats qu'il faisait sur la terre. Mais étant en enfer, il a dit à Abraham d'envoyer son frère. Et Abraham a dit, non, il n'y a pas de voie ici pour aller sur la terre. Et sa réponse était, non, Père Abraham, si quelqu'un se lève de l'enfer, les gens vont l'écouter. Il y a des gens qui aiment les débats, même quand ils arrivent en enfer. Quand tu dis ça, ils répondent. Quand tu dis ça, ils répondent. C'est comme un ping-pong. Oui. En enfer, il dit, non, Père Abraham. Non, si quelqu'un va se lever de la mort, ils vont quoi? Donc ceux d'entre vous qui aimez faire des débats avec vos parents, il faut apprendre à entendre des choses et dire oui s'il te plaît, oui papa, oui maman. Mon père m'avait dit d'être un médecin et moi je ne savais pas ce que ça veut dire d'être médecin. Si je devrais suivre mes désirs, j'allais devenir un vétérinaire, mais moi, j'aime des animaux. Et moi, je voulais être un vétérinaire. Mais il m'avait dit d'être un médecin. Et je pense que je suis plus content d'être un médecin que d'être un. Si j'étais devenu un vétérinaire, c'est plus utile de prendre soin des êtres humains que de prendre soin médicalement des animaux. Donc, Dieu va te susciter pour devenir un père pour des gens au campus, pour des gens dans ton quartier, et Dieu va t'utiliser et vous serez étonné qu'un jeune comme toi, un jeune, il dit, Dieu m'a établi père à Pharaon. Ça veut dire que quand il appelle Pharaon, il dit, Pharaon, viens, voici ce qu'on doit faire. Et Pharaon dit, oui, papa. Pharaon l'appelait, oui, papa. Et ça, c'est puissant. Ce n'est ni la puissance, ni la force. C'est pourquoi c'est pas bon de dire aux gens, il faut m'appeler papa, hein? Moi, j'ai résisté cette appellation papa, mais à un moment donné, j'ai décidé de laisser tomber parce que j'ai constaté que les gens étaient désobéissants, pas prêts à changer de m'appeler papa. Dieu m'a établi père à Pharaon et Dieu va t'établir mère et père aux gens. Les gens vont te regarder comme un modèle et tu seras comme leur père. Tu vas les aimer. J'encourage les gens tout le temps. Je dis, amène quelqu'un d'autre dans ta maison. Prends soin de quelqu'un d'autre. Ajoutez quelqu'un d'autre sur tes ailes. J'avais une amie ou un ami quand j'étais à l'école de médecine. il y a des années. Quand j'étais en première année, on faisait la science chimie, la biologie, et c'était très difficile, plus difficile même que la médecine. Et un jour, j'étais entré dans le laboratoire de chimie et j'ai vu un de mes collègues qui est devenu un père à nos collègues. Il était comme un père pour nous. Et je l'ai vu en train d'enseigner et je me suis dit, « Hey, mais comment il se peut que certaines personnes connaissent plus que certaines ?» Et il y a des gens comme ça. Dieu les a donné cette grâce-là. C'était après qu'il est venu faire partie de l'Église, mais il pouvait comprendre tout. Et il nous enseignait. Il se rassit. Quand je suis entré, il avait dans sa main ses verres. Et puis, il avait un tableau noir en train de nous enseigner. C'est lui qui nous enseignait comment faire les chimies avec les calculs. J'ai dit, waouh, quelqu'un va te faire un père à tes collègues. Oui. Tu vas entrer à Pentagone, à Legon, ou bien à Tech, l'université, le campus, et à ton âge, comme Pharaon, tu vas voir que tu vas devenir un père. C'est comme si tu as une sagesse extra que les autres n'ont pas. Et un père connaît quelque chose plus qu'un enfant ne connaît pas. Et tu dois toujours te rappeler qu'un père connaît quelque chose que toi, tu ne connais pas. Et surtout, chaque fois, un père parle de quelque chose qui le concerne. C'est pourquoi, quand tu méprises les conseils de ton père, c'est la méchanceté. Et ne faut pas venir ici nous dire que ton papa n'est pas spirituel, papa n'est pas... Il faut te dire toi-même que je dois prouver, je dois montrer que je suis un bon enfant. Sinon, tu seras un mauvais enfant et tu seras pire que ton père. Vous m'écoutez? Dis à quelqu'un, je deviens un père. Restez debout tout le monde. Aujourd'hui, c'est fête des pères. Levez vos mains et priez et dites, Père, fais de moi le père que tu veux que je devienne. Allô? Hello? Est-ce que vous m'écoutez? Un jour, mon père m'avait demandé. Bien, ma maman m'a demandé, comment est-ce que tu connais beaucoup de personnes? Beaucoup de problèmes ici, là. Et tu es dedans. Tu essaies de les aider. Mais la réponse, c'est que j'ai décidé d'être un père, pas seulement biologique à mes enfants biologiques, mais devenir un père à beaucoup de personnes. Et Dieu va t'utiliser. Est-ce que vous connaissez James McKeown? Oui. Il est le fondateur de l'église Pentecôte. Vous connaissez son épouse? Son épouse s'appelle Sophie, ou je crois qu'elle s'appelait Sophie McKeown. Oui. Vous savez quelque chose? Elle n'avait jamais enfanté un enfant biologique. Et tous les enfants de l'église de Pentecôte sont ses enfants. Ils sont venus au Ghana, à Saman, Kessi, Swedro, à 1938, 36, 32. Ils étaient au Ghana ici. Et même au Ghana, oui. Waouh! Tous les enfants de Pentecôte sont là. Quand j'étais allé à Singapour, il y avait une grande église. Je suis allé prêcher là-bas. Cette église avait commencé par une femme. Elle était assise là-bas quand je prêchais. Elle a 84 ans maintenant. Elle n'avait pas d'enfants. Elle ne s'est pas mariée. Mais toutes ces personnes dans l'église-là, ce sont ses enfants. Donc, je veux que vous levez vos mains, tout le monde, levez vos mains et dites, Seigneur, fais de moi un père. Joseph a dit, Dieu m'a établi père à Pharaon. Dis, Père, fais de moi un père, une mère à beaucoup de personnes. Priez, merci pour ta présence. Oui, Seigneur. Seigneur, alors que nous nous approchons à ce carrefour de notre culte, nous t'aimons, Seigneur, nous te louons. nous t'aimons et nous nous donnons, Seigneur, à toi. Et nous disons, Seigneur Jésus, que ta volonté soit faite. Ô Jésus, que ta volonté soit faite. Seigneur, tourne-nous en des merveilles, merveilleux. Appelle l'Éternel. Invoque le nom de l'Éternel. Invoque le nom de l'Éternel. Ce message est un message très important pour ta vie. Seigneur, je sais que tu as besoin de quelqu'un. Je sais que tu me fais un père. Merci. Merci. Et merci encore de m'avoir béni pour devenir un père. Père. Un père merveilleux. Mago Sadiga. Pralo Shadababa. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Maintenant, partie numéro 2. Comment devenir ce père dont je parle? Numéro 1. Il faut suivre l'Éternel fidèlement pour des années. Je suis en train de vous montrer comment suivre l'onction pour devenir le père dont je parle dans ma prédication. Il faut suivre l'Éternel pour des années fidèlement. Quand tu suis Jésus, tu deviens plus sage. Tu deviens plus sage. Amen. Écoutez, écoutez-moi, regarde-moi. Quand tu es chrétien, il ne faut pas avoir peur de demander des questions. Il faut te demander, est-ce que cet homme-là, il est fils de Dieu? Pourquoi est-ce que vous dites que lui, il est fils de Dieu, pas l'autre personne? N'aie pas peur. Il y a des réponses à toutes ces questions. Alors que je suis l'Éternel plus, je l'aime plus. J'ai appris plus qu'il est réel. Quand j'étais allé en Israël, j'étais un peu perturbé parce que je voyais les gens jouer sur la mer de Galilée et je n'étais pas habitué à ça. Oh, mais alors que je continue à aller, j'ai appris, j'ai vu comment il est beau et comment beau et réel Jésus est. Alors que nous suivons l'Éternel et on s'approche vers l'onction, donc, dans la chambre plus haut, vous allez voir que les gens qui ont reçu la puissance pour devenir oint, devenir les pères oint, ils ont suivi l'Éternel fidèlement dans la chambre haute. Ils ne savaient pas qui choisi pour remplacer Judas, et il y avait une condition. Actes chapitre 1, verset 21, vous allez voir là-bas. Et vous savez, l'église où je suis allé prêcher, à Singapour, ils ont arrêté de mettre les écritures aux écrans parce que les gens n'amènent plus la Bible à l'église pour fouiller la Bible. Donc, il faut aussi, vous qui êtes là, apprêtez-vous parce que bientôt, je vais dire de ne plus mettre les écritures aux écrans. Donc, Acte 1, 21. Qui veut être choisi pour devenir père plein de l'onction? La Bible dit, il faut donc qu'entrent les hommes qui se sont rassemblés avec nous pendant tout le temps que le Seigneur Jésus entrait et sortait au milieu de nous. En commençant depuis le baptême de Jean jusqu'au jour auquel il a été élevé au ciel d'avec nous. Donc, du commencement jusqu'à la fin, tu dois être là. Dis à quelqu'un, j'y serai fidèlement. Certains parmi vous, vous aurez des cheveux gris et vous serez en train de marcher comme ça. Peut-être que je ne serai pas vivant et vous serez en train de dire que, est-ce que tu connais Doug Ewald Mills? Et la personne va dire, oui, je le connaissais. Oui, j'étais vivant quand il prêchait. Mais à cette époque-là, vous serez courbé comme ça. Oui. Peut-être dans 70 ans du cela. Hey, ça veut dire que vous serez à quel âge? 70 ans. Peut-être que je serai toujours vivant. 120 ans et quelques. Peut-être que je serai l'homme plus âgé au Ghana. Étape numéro 2. À cette onction merveilleuse, il faut être disponible pour expérimenter tout. Acte chapitre 1. Regardons Acte chapitre 1. Verset 3. La Bible dit, à qui aussi, après avoir souffert, il se présenta lui-même vivant et plusieurs preuves assurées, étant vu par eux durant 40 jours et parlant des choses qui regardent le royaume de Dieu. Donc, tu dois être là pour expérimenter toutes les merveilleuses choses que Dieu a pour toi. Et vous devez être là pour ça. Chaque concert, c'est une expérience différente. Vous devez être là. Est-ce que je peux avoir un amen? Maintenant, combien de personnes croyaient que bientôt vous serez à la mer de Tibérias quand Jésus est apparu au bord de la mer de Tibérias? Il s'est assis et puis les disciples étaient là. Il a dit à ces disciples-là que, est-ce que vous m'aimez? Est-ce que tu m'aimes, Pierre? Mais vous savez qu'il était un homme déjà mort. Tout le monde était au courant que Jésus était mort. Mais ce jour-là, il expérimentait un homme qui est mort, qui est ressuscité d'entre les morts, qui parlait, il dit, « Si tu m'aimes, paie mes brebis. » C'était une conversation entre un homme supposé être mort. Donc, si tu étais là pendant ce culte-là, je ne pense pas que ta vie devrait être même. Donc, ça veut dire que certaines personnes, vous ratez certaines choses dans votre vie parce que vous ratez certains cultes. Vous ratez certaines expériences en Dieu. Oui. Parce que la mer de Tibérias, j'étais en train de regarder. Tibérias, c'est la seule mer à côté du lac. Et Jésus a demandé, est-ce que tu m'aimes? Si tu m'aimes, paie mes brebis. Et il les a demandé cela à plusieurs reprises. Et ça, c'est la première fois il s'est apparu pour causer avec ses disciples après la mort. Il a dit, mes enfants, avez-vous trouvé des poissons? Ils ont dit non. Il dit, il faut essayer de l'autre côté. Ils ont attrapé beaucoup de poissons. Et ils ont dit, c'est l'éternel. Voici comment le christianisme s'est répandu dans le monde. Parce que beaucoup de personnes ont cru dans la résurrection de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Oui. Donc, quand vous ratez quelques cultes, quand vous ratez quelques cultes, vous ratez l'onction. Donc, en Actes chapitre 1, nous allons voir Jésus donner à ses disciples les instructions claires sur comment progresser pour devenir comme il était. Et il disait que, attendez ici, vous allez recevoir de la puissance. Donc, étape numéro 1, il faut suivre l'Éternel fidèlement. Étape numéro 2, il faut être prêt pour toute expérience. Étape numéro 3, il faut décider de ne pas suivre les politiques. Parce que, Actes chapitre 1, verset 6 et 7, la Bible dit que Jésus leur dit, mais il leur dit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou les saisons que le Père réserve à sa propre autorité. Vous allez voir que immédiatement les disciples de Jésus voulaient devenir politiques. Mais moi, je vais vous dire quelque chose. Si vous voulez avoir une meilleure vie, il ne faut pas te mêler dans les politiques. Ce sont les gens, les hommes d'affaires qui se mêlent dans les politiques, qui ont toujours des problèmes. L'une des manifestations de méchanceté des hommes, c'est la politique. Si vous prenez par exemple Adolf Hitler, Il avait des mauvaises politiques. Écoutez, ce n'est pas parce que c'était les Allemands qui sont mauvais, c'était la politique, la partie politique nazie. Ça représente parti socialistique, nationalistique. Et ils avaient des gens, Hermann Göring, Karl Bidens, le ministre de propagande, c'était un homme appelé Gable ou bien Goebbels. C'était une partie politique qui a pris la puissance et le pouvoir. Et c'est eux qui ont dit, on va tuer tous les Juifs. Donc, ce n'est pas les Allemands qui... Non. Ce n'est pas les Allemands qui sont méchants. C'était une partie politique. Aujourd'hui, l'Allemand est un des pays qui soutient vraiment l'Israël. Vous voyez? Donc, il voulait demander, est-ce que c'est là maintenant, on aura maintenant les partis politiques? Jésus a dit, non, ce n'est pas ça. C'est pourquoi moi, je ne soutiens aucune parti politique. Et vous-même, vous pouvez voir qu'il y a une petite différence entre les deux partis politiques. Il n'y a presque pas de différence même entre les deux. Donc, Jésus nous enseigne de nous focaliser sur ce qui est droit. Si tu veux devenir quelqu'un qui est spirituel, tu ne dois pas entrer dans les politiques. Si tu veux entrer en business, il ne faut pas que tes business-là dépendent des politiciens. Aujourd'hui, quelqu'un va venir, la personne ne t'aime pas, quelqu'un d'autre vient la semaine prochaine, cette personne t'aime. Numéro 4, étape numéro 4. J'espère que vous êtes en train de regarder, écrire tous les points. Étape numéro 4. Sois un membre humble du groupe dans lequel Dieu t'a appelé. Et la Bible dit qu'ils se sont ensemble. Vous devez être humblement faire partie de l'Église. Chaque personne, Dieu te donne un groupe, il te dit de faire partie de ce groupe-là. Il faut être un membre humble, c'est tout, c'est fini. Vous savez, Yonggi Cho, il a combien d'âge? Plus de 80 ans, mais s'il appelle une réunion, je serai là. Il n'arrive même pas à parler bien, mais je serai là. Oui, je vais aller acheter tout, même si ce sont les ordures dont il va parler, je serai là. Une fois que je vois que Dieu me met dans un groupe, je vais m'humilier et je vais rester là-bas et je vais partir de ce groupe-là. Dis à ton ami, je te demande avec l'humilité de faire partie du groupe dans lequel Dieu t'a mis. Ne sois pas trop grand pour ton groupe. Et vous voyez, il y a certaines personnes, ces personnes ici-là, ils ne disent rien. Dis à ton voisin, humblement, faites partie du groupe. Ah, je croyais que vous étiez mort, vous êtes vivant. Alléluia. Écoutez-moi très bien. Il y a un groupe. Il faut être partie de ce groupe. Une fois que Dieu te met dans ce groupe, il faut l'accepter et reste là-bas, calmement. Vous savez, la Bible dit qu'ils se sont assemblés ensemble. 120, eux tous, ils croyaient en Jésus-Christ pour 40 jours. Personne n'avait dit que non, moi je pars quelque part, je vais me joindre à une autre église. Ils étaient là calmement. Ils étaient humbles, ils faisaient partie. Jusqu'à ce qu'un jour, la gloire est descendue et tu vas voir que ah, ça paye de faire partie du groupe. Celui-là a payé. C'est pourquoi certaines personnes comme l'évêque Saki, l'évêque Eddy, ils sont les gens très spéciaux pour moi parce qu'ils ont été avec moi depuis le commencement quand j'ai commencé dans la salle de classe. Mais vous venez d'arriver, vous voyez, donc vous venez d'arriver, donc vous n'allez pas comprendre bien ce que je dis. Vous savez, les gens ont été humbles dans les choses. Soit ça marche, soit ça ne marche pas. Si les choses se ralentissent, si les choses se font en rapidité, ils étaient ensemble. Ils ont marché avec moi 40 jours. Vous voyez, pouvez-vous imaginer après 21 jours, ça veut dire 3 semaines, rien ne se passe. Jésus est mort, il a dit de l'attendre, il n'y voit rien. Donc, n'importe quel groupe dans lequel Dieu te met, soit dans le groupe. C'est pourquoi je suis associé à l'évêque Duncan Williams. Je suis associé avec lui depuis que je suis devenu pasteur. Je ne vais jamais changer mon groupe. Moi, je m'en fous de ce que les gens vont dire. C'est un groupe que j'appartiens et c'est ce groupe. Donc, n'importe où Dieu te place, il faut suivre le flot, reste là-bas. Et vous allez voir que quand il y a un bon jour, vous serez en train de rire. Il y a beaucoup de personnes qui disent, ah, tu sais quelque chose, j'étais son professeur, j'étais son ami. Avant, j'étais dans l'église. Tu étais dans l'église avant, mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il faut être un membre humble du groupe. Étape numéro 1, c'est quoi? Il faut lire ça à l'écran. Si vous n'arrivez pas à lire de votre livre ou votre cahier, point numéro 1, il faut suivre l'Éternel fidèlement. Numéro 2, il faut être disponible. Qui peut croire que Jésus peut venir ici ce matin? Il y a un pasteur, il s'appelle, bon, je ne vais pas vous donner son numéro. Un jour à l'église, Jésus est entré dans l'assemblée en vue de tout le monde. Je croyais que Kenneth Hagin était la seule personne qui avait rencontré Jésus. Mais cette fois-ci, Jésus est entré dans la chambre, dans la salle, et même les vidéos l'avaient capté. Il était venu s'asseoir devant et il a disparu. C'est sur vidéo. Vous serez là quand Jésus va apparaître. Quand Jésus va apparaître. Étape numéro 3. Étape numéro 3. Il faut décider de ne pas suivre les politiques. Étape numéro 5. Il faut suivre la sagesse de l'Éternel. Qu'est-ce que l'Éternel a dit? En Actes chapitre 1. Il faut suivre la sagesse. Obéir. Il faut obéir. Si tu veux devenir un père, moins pour devenir un père, il faut suivre la sagesse de Dieu. Je presse de mon livre étape menant à l'onction. 5. Il faut suivre la sagesse de l'Éternel. Actes chapitre 1, verset 4. Il leur dit de ne pas quitter Jérusalem. Ne quitte pas Jérusalem. Certains parmi vous, vous voulez aller aux États-Unis jusqu'à ce que, même quand Dieu te dit d'être en Afrique, tu ne peux pas, tu ne veux pas. Il faut suivre la sagesse de l'Éternel. S'il te dit d'être ici, sois là. Amen. Quand nous serons en Israël, je vais vous montrer de Jérusalem en Galilée. C'est très loin. C'est très loin. C'est comme quitter Accra pour aller à Elubo. Oui. C'est pas exactement, mais quelque chose comme ça. C'est loin. Oui, bien sûr, ils ont de bonnes routes. Donc, quand tu voyages, tu ne vas même pas savoir. Regardons Matthieu 28. Matthieu 28. Wow. Versets 9 et 10. Et comme elle allait pour annoncer à ses disciples, voici, Jésus vint et devant elle, disant, je vous salue, et elle s'approche de lui, saisir ses pieds et lui dit, ça c'est Jésus qui a été ressuscité d'entre les morts. Verset 10, alors Jésus leur dit, n'ayez point de peur, allez annoncer à mes frères qu'ils aillent en Galilée et là ils me verront. Donc si tu veux voir Jésus, tu dois aller en Galilée, ça veut dire à Elubo. Et quand il était là, il les a dit maintenant d'aller à Jérusalem, à Accra, pour recevoir le Saint-Esprit. Tu ne peux pas dire à Jésus de réfléchir vite et te dire ce qu'il veut dire là. Il n'a qu'à dire ça vrai. Tu ne peux pas dire à Jésus, où est-ce que tu veux que nous restons, en Galilée ou bien à Jérusalem? Aujourd'hui, tu nous dis de venir en Galilée. Après, tu nous dis d'aller encore au Jérusalem. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Dites-nous. Donc, c'est ici, maintenant, Jésus est apparu. Il a dit, est-ce que tu mets Pierre? Est-ce que tu mets Pierre? C'était au Tibérias. C'est là, maintenant, il a dit, attendez en Jérusalem quand le Saint-Esprit va venir à Jérusalem. Waouh! Donc, quiconque Dieu dit, il faut arrêter d'argumenter. Certains parmi vous, vous aimez argumenter trop. À partir d'aujourd'hui, vous savez, qu'est-ce qu'il a dit? La Bible dit, et étant ensemble, il les commandait de ne pas quitter Jérusalem, mais d'écouter et d'entendre. Donc, si Dieu te bénit et il décide de te bénir à Accra, il ne faut pas aller à Lagos. Si Dieu décide de te bénir à Lagos, il ne faut pas venir à Accra, sinon tu seras sans travail, tu seras en chômage. Là où il t'a dit d'être, c'est là où tu vas fleurir. Il ne faut pas suivre de l'argent. Récemment, quelqu'un m'avait parlé d'un pasteur qui suivait de l'argent et il est mort. Moi, j'étais étonné, je ne savais pas que la personne qui me racontait l'histoire connaissait le pasteur. Et il m'a dit, ce pasteur, il est allé suivre l'argent et il est mort. Et la personne m'avait dit combien d'argent il essayait. J'étais étonné. Il ne faut pas suivre les autres, il faut suivre Jésus seul. Il ne faut pas suivre l'argent, il faut suivre Jésus. Je n'ai jamais pris une décision de faire quelque chose sur bon, l'argent. Non, non, non. Depuis que je suis né, je n'ai jamais fait quelque chose à cause de l'argent. Pas mes amis, pas rien. Et je n'aime pas des amis qui sont connectés par de l'argent. C'est pourquoi moi, je vous aime sans l'argent. Vous êtes mes enfants. Et je veux juste vous prêcher et prier pour vous. Oui. Alléluia. Amen. Et puis, numéro 6, nous sommes en train de finir comme ça, il y a seulement 7 points. Numéro 6, il faut maintenant chercher la face de l'Éternel. Nous voyons à chapitre 1, verset 4, il a dit, il faut attendre pour la promesse. Qui va apprendre à attendre l'Éternel? Étape numéro 7, c'est l'amour et l'unité. Le jour de Pentecôte est vraiment venu, et le jour de Pentecôte, la Bible dit en Actes chapitre 2, ils étaient en ensemble, ils étaient ensemble en commun, à un même lieu. Maintenant, le Saint-Esprit est sur le point de descendre. Et soudainement, il vint un vent impétueux. Il y aura une bénédiction qui va venir aussitôt, soudainement sur toi. Verset 3. Je prophétise sur vous que chacun a une flamme sur sa tête. Oui. Tu ne dois pas avoir ma flamme. Chacun a sa flamme. La Bible dit, il y avait des langues de feu. C'est pourquoi je dis, vous étiez venus ici pour me souhaiter bonne fête de Père, mais je vous dis que Dieu est en train de vous établir Père de beaucoup de nations. Ici, il y a quelque chose appelé homme de Dieuisation. Moi, je ne suis pas dedans. Moi, je veux que Dieu suscite encore des arts et puis que Dieu suscite encore des hommes de Dieu. Moi, je deviens content et fort quand je vois encore beaucoup de mes amis deviennent des hommes de Dieu. Donc, ceux qui sont assis derrière, il ne faut pas critiquer ceux qui sont dehors. Il ne faut pas faire sortir des paroles drôles. Soyons la paix. Quiconque me critique, tu ne peux jamais partager l'onction qui est sur ma vie. Tu ne peux pas. Pourquoi? Parce que quand tu critiques quelque chose, la chose fuit de toi. Quand tu attaques quelque chose, la chose fuit de toi. Si tu as un chat ou un chien, les gens qui ont des chiens à la maison, et vous jetez les pierres contre les chiens, si maintenant un voleur, un braqueur en mer armée vient chez toi pour voler, dès que le voleur commence à chercher des pierres, le chien va fuir parce que c'est ça qu'il voit dans sa vie. Vous devez apprendre. Vous devez apprendre à recevoir. Est-ce que vous avez vu des colombes qui vient, qui atterrit autour des gens au Ghana ici? Jamais, parce que... Mais est-ce que vous avez vu un endroit où les colombes viennent partout, viennent se tenir sur votre épaule et tout? Vous voyez, au Ghana ici, on allait te bouffer depuis longtemps si tu étais colombe. Donc, ce que vous êtes en train d'apprendre, ça c'est l'onction et il ne faut pas critiquer. Par exemple, moi je crois qu'il y a un manteau d'onction sur moi. Donc, si tu jettes une pierre, ça touche le manteau d'abord avant de me toucher. J'espère que vous comprenez. Donc, tu as lapidé l'onction, tu as critiqué l'onction, maintenant tu veux que l'onction vienne sur ta vie, tu vas voir que ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Il faut apprendre à être calme et inquiet. S'il y a quelque chose que tu ne comprends pas, il faut prier sur ça, mets ça dans un placard et puis ça sera là. Un jour, tu vas oublier le placard et tu vas voir que, ah, cette chose dont je demandais là, je comprends maintenant. C'est très simple. Parce qu'il y a toujours les choses dont nous ne comprenons pas, mais un jour, on va comprendre. Un jour, toi aussi, tu seras un père. Donc, il faut recevoir l'onction pour devenir un père à partir d'aujourd'hui. J'ai dit recevoir l'onction pour devenir un père. Étape numéro un, c'est quoi? Il faut suivre l'Éternel fidèlement pour des années. Numéro deux, sois disponible. Numéro quatre, il ne faut pas suivre les politiques. Numéro quatre, sois un membre humble du groupe dans lequel Dieu te met. Suivant, il faut rester à Jérusalem. Hein? Quand il te dit de bouger, aller à Jérusalem, ne dis pas que non, nous on veut rester à une seule place. Numéro 6, numéro 7, il faut aimer l'onction. Il ne faut pas combattre l'onction, il faut aimer l'onction. Donc, toutes ces onctions que Dieu nous donne, il nous donne l'onction pour devenir un père. Recevez-le au nom de Jésus-Christ. Restez debout très vite. Je ressens l'onction venir sur votre vie, Père. Merci pour ta grande puissance. Merci pour tous ces enfants que tu as élevés et tu es en train de les utiliser. Et utilise-les puissamment. Qu'ils soient remplis de ton esprit et qu'ils deviennent partout dans le monde entier. Merci et merci. Il faut recevoir maintenant cette onction-là et la bénédiction. Touche chaque vie ici. Merci. Partout, Seigneur, nous te rendons grâce. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Tout le monde dit amen. Avez-vous d'huile d'onction? Mettre un peu d'huile dans votre main. Tout le monde ici aura des enfants. Je sais que très bientôt, il n'y aura pas beaucoup de personnes pour remplir cette salle. Prenez l'huile. Qui n'a pas d'huile? Qui n'a pas d'huile, ok? Voici, prendre, mettre un peu sur ton front, ta tête. Prends l'huile. Prends l'huile. Mettre un peu sur ta main et puis il faut te oindre. Vous êtes prêts? Je vais prier pour vous. Au lieu d'être au merci ou bien à la merci des autres, Dieu te donne aussi la grâce pour devenir le pharaon. Père, je prie sur cette huile, alors que nous nous oignons, au lieu d'être des victimes de pères et des mères, Seigneur, fais de nous des mères et des pères. Je prie pour tous mes enfants ici. Fais d'eux des mères et des pères, les gens qui vont pourvoyez les besoins des autres. Utilise-les grandement. Et qu'ils pourvoient leurs besoins physiquement. Pour des milliers, je libère l'onction, Seigneur, sur tout le monde qui m'écoute et qui me regarde dans ce lieu. Merci, Seigneur. Recevez la grâce pour être un riche au nom de Jésus. Même à l'âge plus bas et jeune, tu seras comme Joseph qui était devenu un père pour Pharaon au nom de Jésus-Christ, sauveur du monde entier, au nom de Jésus. Père, je te rends grâce. Amen. Que Dieu vous bénisse. Toutes les têtes baissées, tous les yeux fermés, tu es ici, tu n'es pas né de nouveau, mais tu veux donner ta vie à Jésus-Christ. Je veux que vous priez, tu es ici, tu n'es pas né de nouveau. Je veux que tu quittes là où tu es, viens devant. Viens devant. Élève ta main, tu veux être né de nouveau. Viens. Ta vie change à partir d'aujourd'hui. Je veux être né de nouveau. Je veux être né de nouveau. Venez devant, venez devant, venez devant. C'est magnifique. C'est magnifique. Venez, j'aimerais prier pour toi. Pasteur, j'aimerais donner ma vie à Jésus-Christ. Venez, venez par derrière. Venez partout. J'aimerais donner ma vie à Jésus. Venez, je vais prier pour vous. Alors que vous donnez votre vie à Jésus, d'accord? Levez vos mains et répétez cette prière. Dites, Seigneur Jésus, s'il te plaît, pardonne-moi pour mes péchés. Je te donne ma vie. Je te donne ma vie. Je m'excuse pour tous mes péchés. Aujourd'hui, je m'humilie. J'ouvre mon cœur. Je reçois Jésus-Christ comme mon sauveur, mon Seigneur, mon Seigneur. S'il te plaît, écris mon nom. S'il te plaît, écris mon nom dans le livre de vie. Merci, Seigneur, de m'avoir sauvé aujourd'hui. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen.
Nous croyons que vous avez été bénis par la prédication de la parole de Dieu. Pour les CD, DVD, livres et autres matériels de Dagi Wall Mills, visitez notre site internet au www.dagiwallmills.fr. Dieu vous bénisse richement.